7h12 sur France Culture, c'est l'heure d'Histoire de foot, l'occasion d'évoquer ce matin l'autre Brexit, puisque l'Angleterre est sortie de l'Euro 2016 après sa défaite face aux petits poucets de cette compétition.
Les Islandais continuent effectivement de surprendre le public match après match. Hier, cette équipe s'est imposée 2-1 au stade de Nice, une humiliation pour les Anglais qui, dans la foulée, ont donc perdu leur entraîneur qui a démissionné sur le champ. Bonjour Raphaël Bourgois.
Bonjour Olivier Denray.
Les clichés, par définition, ont la vie dure. Et donc, le Brexit se confirme.
Bah oui, Olivier, il faut bien reconnaître une chose à nos amis anglais, ce sont des gens conséquents. Leave, c'est leave, et cela s'applique donc manifestement aussi au football, puisqu'après avoir voté donc pour la sortie de l'Union Européenne jeudi dernier, les sujets de sa gracieuse majesté ont été sortis, vous l'avez dit, de l'Euro 2016 en huitième de finale par la petite Islande. Et c'est évidemment un événement de taille. Les bookmakers anglais, qui ne sont, on le sait maintenant, décidément pas plus fiables que les sondages, donnaient l'Angleterre gagnante à 10-1. Il faut dire que l'Islande, c'est à peine 100 joueurs professionnels. Imaginez-vous, ça veut dire que les 23 joueurs de l'Euro représentent un quart de l'effectif total des professionnels islandais. Alors comment est-ce possible, me demanderez-vous Olivier, comment dans ce sport dont on nous dit qu'il est pourri par l'argent, où les joueurs stars s'échangent à des dizaines, voire à des centaines de millions d'euros, peut-on encore avoir ce genre de surprise? Eh bien, certaines réponses rappellent les arguments du camp du Brexit. À écouter les premiers commentaires hier soir, après le match, j'ai été frappé d'entendre revenir cet argument. Les Islandais ont su développer leur style, jouer en connaissant parfaitement leurs forces et leurs faiblesses, alors que les Anglais, eux, ne jouaient plus comme des Anglais. Ce serait donc un problème d'identité de jeu, presque d'identité nationale. Le fameux kick and rush, typiquement britannique, hein, en gros, on balance la balle devant et on court très très vite pour la rattraper. Ce fameux kick and rush n'est plus. Et c'est bien là le problème. Les Anglais ont joué contre leur nature profonde, victime de l'européanisation de leur football, puisque la Première Ligue est un contributeur net et massif à l'immigration européenne. Beaucoup des joueurs communautaires jouent outre-Manche. Voilà ce qu'on pouvait entendre donc en substance hier. Eh bien, disons-le, Olivier, c'est n'importe quoi. Comme le fait remarquer Albrecht Sontag dans le très bon hors-série de la revue L'Éléphant sur la culture foot, si Michel Platini pouvait dire il y a encore quelques décennies que le style d'une équipe, c'est, je cite, une manière de vivre, une culture, cela fait bien longtemps que ce n'est plus le cas. Et pourtant, l'idée de style national perdure, alors même que les Italiens ne verrouillent plus leur défense ou que les Allemands pratiquent un jeu tout en finesse, loin du côté brutal de leur jeu dans on se souvient de Batiston, de l'attentat de Schumacher contre Batiston, c'est que cette idée rassure commentateurs et spectateurs naturellement enclins à voir dans le jeu des équipes nationales se confirmer leur stéréotype. Tout ça n'est qu'affaire de récits, de représentations collectives, d'autoprogrammation mentale qui a des effets durables sur la façon dont les choses sont regardées, perçues et interprétées, nous dit Sontag. Je vous l'avais bien dit, on dirait qu'il parle de la campagne du Brexit. Si les Anglais sont sortis, eh ben c'est peut-être tout simplement parce que les Islandais ont été meilleurs. Vérité de la palisse que les Français feraient bien de garder en tête, puisqu'ils devront les affronter dimanche prochain.
Merci beaucoup Raphaël Bourgois pour cette histoire de foot que l'on peut bien sûr réécouter sur notre site franceculture.fr.